Bonjour à tout le monde. Une excellente fête de la Pentecôte. Comme on parlait tantôt avec certains en arrivant, on se demande combien il en reste à célébrer encore avant que le Christ soit avec nous. Mais ça diminue chaque année. On sait que cette année-là, elle est devant nous quelque part, elle s'en vient, Dieu le sait. Alors, c'est vraiment encourageant. Et c'est par sa puissance que tout ça va se réaliser. Puis c'est par sa puissance qu'on peut arriver à faire des choses sur le domaine spirituel puis à changer. D'ailleurs, c'est par sa puissance aussi qu'on peut comprendre son plan, sa parole, pourquoi on est ici, pourquoi le sabbat, pourquoi les fêtes. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Puissance de la transformation ». Et depuis que Dieu nous a appelés, il nous a transformés énormément. Prenez simplement sur le fait de comprendre sa parole. Avant qu'il nous appelle, on pouvait lire la même Bible, mais sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. C'est tellement précieux ce don-là du Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui l'appellent et qui place dans ceux qui se convertissent et qui se font baptiser. On est dans ce sens-là aussi les pionniers d'une nouvelle civilisation qui s'en vient, la civilisation de Dieu. On prépare le retour de Christ. Parce qu'on comprend la Bible, on voit autour de nous se réaliser les prophéties qui sont annoncées dans la Bible. Et on prépare ce retour-là du Christ et on se prépare, nous, pour servir les autres dans le monde à venir. Et dans ce sens-là, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais nous écrivons l'histoire. Nous faisons partie de l'histoire. Nous l'écrivons et nous la préparons dans sa dimension nouvelle. Lors de la première Pentecôte dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, Dieu a donné ses 10 commandements, ses lois éternelles. C'est des lois de justice qui représentent son caractère parfait. Et ça, ça ne changera jamais. C'est les mêmes lois qui vont être appliquées dans le monde à venir. Lors de la première Pentecôte du Nouveau Testament, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un grand changement. C'est que Dieu, à ce moment-là, a justement accordé sa puissance de transformation à ceux qu'il appelait pour former son Église à ce moment-là, à ses serviteurs appelés. Pourquoi est-ce qu'il a donné son esprit? Pour les rendre capables de changer, pour les rendre capables de vaincre et les rendre capables aussi d'accomplir la mission qu'il leur a donnée, parce que nous ne sommes pas appelés pour nous-mêmes, mais nous sommes appelés justement pour préparer le retour de Christ et pour, dans ce sens-là, annoncer l'Évangile. Et on a besoin de la puissance de Dieu pour être capable de faire. Allez dans Actes chapitre 1, s'il vous plaît. Actes chapitre 1. Et si vous avez un marqueur dans vos Bibles, vous pouvez le mettre à Actes 1 ou 2. On va revenir à quelques reprises durant le message ce matin. Quelques jours avant la Pentecôte, le Christ a annoncé exactement que le Saint-Esprit serait donné aux serviteurs que Dieu allait appeler. Là, le Christ était ressuscité et il leur a apparu plusieurs fois dans cette période-là avant de retourner au ciel. Acte 1, versets 4 à 8. « Comme il, en parlant du Christ, se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur a-t-il dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Eux autres avaient encore à l'esprit, là, toutes les fois que le Christ avait dit que son royaume allait être établi sur la terre. Alors, ils ont associé ça directement en pensant que ça allait arriver rapidement. Il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de son autorité. » Et là, vous allez voir, il les ramène sur ce qui vient de commencer à leur expliquer. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Et le Christ lui-même définit qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. C'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Pourquoi? Bien sûr, on sait que c'est pour vaincre, on le voit par d'autres passages, et pour développer le caractère de Dieu, mais pour accomplir la mission. Et regardez, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà, ici, la mission était tracée. C'était pas uniquement pour eux dans le temps, parce que ça fait 2000 ans de ça, et nous, on continue cette mission-là, bien que nous soyons rendus à la toute fin de l'histoire humaine telle qu'on la connaît maintenant. Alors, la mission était tracée, et il leur a dit, « Restez à Jérusalem, vous allez recevoir la puissance de Dieu dont vous avez besoin pour changer et pour accomplir l'œuvre. » Et tel que promis, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et tout de suite, ils ont commencé à vivre des miracles de transformation extraordinaires. Parce que le Saint-Esprit c'est la puissance de transformation de Dieu. Et tout de suite sur le champ, ils ont commencé à goûter ces expériences-là. Regardez Actes 2, versets 1 à 4. C'est la première Pentecôte du Nouveau Testament, là où la nouvelle alliance a été donnée. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. C'était le symbole pour que les gens voient à ce moment-là de façon très, très claire qu'il se passait quelque chose de spécial, ça s'adressait à ses disciples, que c'était hors norme la circonstance qu'il y avait là, qu'il se passait quelque chose de jamais vécu auparavant. Et ils furent tous remplis de cette puissance-là que le Christ avait définie, du Saint-Esprit. Et parce que cette puissance-là était en eux, ils se mirent à ce moment-là à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils ont parlé dans d'autres langues que les langues qu'ils connaissaient. Ce n'était pas un charabia de paroles incompréhensibles. Au contraire, parce qu'on voit par le contexte que ceux qui les écoutaient entendaient dans leur langue même, c'était l'autre aspect du miracle, ce que les disciples annonçaient et prêchaient. Bon. Alors, on voit par là que le don du Saint-Esprit, c'est extrêmement précieux et que ça transforme déjà sur le champ. Mettez-vous dans le contexte de ça. Déjà, ils ont été changés immédiatement et ils avaient le pouvoir en eux de faire des choses qui leur étaient impossibles auparavant. Et tout de suite après, quand ils sont sortis de cette pièce-là où ils étaient, qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, à l'apôtre Pierre? Lui qui était craintif avant, peu de jours avant, quand le Christ avait été arrêté, vous vous rappelez? Il suivait pour voir qu'est-ce qui se passait et quand on lui a demandé s'il connaissait l'homme qui avait été arrêté, « Non, je ne connais pas. » Il avait trahi le Christ, il avait été craintif. Mais là, ce même homme-là vient de recevoir le Saint-Esprit. Il sort à l'extérieur et il prononce un discours ou un sermon d'une puissance extraordinaire. Est-ce que c'était par la puissance de Pierre? Non. C'était par la puissance de Dieu qu'ils venaient de recevoir en eux. Et Dieu se manifestait de façon particulière parce que c'était le fondement de son Église, la lancée de la mission de l'Église du Nouveau Testament. Il a prononcé publiquement un puissant discours devant les assassins du Christ. Ça, c'est la réalité. Et Pierre a mis ces gens-là face à leur culpabilité. Il avait demandé la mort du Christ. Vous vous rappelez, vous connaissez le contexte biblique. Il les a mis face à leur culpabilité et face à leur responsabilité. Puis en même temps, Pierre leur montre le chemin par lequel on peut être pardonné de toutes nos fautes, y compris d'avoir été meurtrier même, et de recevoir le Saint-Esprit aussi, et de faire partie du corps de Christ, de faire partie de son Église. Acte 2, regardez le verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, il leur a parlé très clair, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » C'était le même homme qui disait « Je ne le connais pas, là, quelques jours auparavant. » Voyez-vous la transformation? Et ça ne venait pas de lui, absolument pas. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'il faut faire? » Ils voulaient changer, ils voulaient apprendre maintenant comment devenir autre. Quelques instants auparavant, Pierre leur avait rappelé une importante prophétie, celle qu'on trouve dans Joël. Vous pourrez noter, vous irez voir Joël 2, versets 28 à 31. Dans ce contexte-là, là, Pierre leur avait rappelé une importante prophétie qui a rapport directement avec ce qui était en train de se passer à Jérusalem puis ce qui s'était passé dans les jours précédents, au moment de la mort du Christ et ce qui avait entouré sa crucifixion. Acte 2, verset 17. Dans son fameux discours, regardez ce que Pierre leur dit ici. « Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc, je répandrai de ma puissance maintenant sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Autrement dit, ce ne sera pas uniquement sur quelques-uns comme dans l'Ancien Testament. C'était seulement les prophètes. Parfois, il pouvait en avoir un seul ou deux par génération, parfois plus, mais l'esprit n'était pas répandu sur plusieurs. Alors que là, avec la fondation de l'Église du Nouveau Testament, là, c'était un groupe d'individus qui recevaient la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Maintenant, je donne une définition. Prophétiser, ça veut dire quoi? À la base, ça veut dire simplement ceci, ça veut dire parler de façon inspirée par le Saint-Esprit. Quelqu'un, par exemple, qui connaît la Bible, qui est appelé par Dieu, et qui explique à quelqu'un d'autre ce que la Bible veut dire, il prophétise, parce qu'il parle de façon inspirée, tout simplement. Et Pierre est en train de leur dire, ce que vous voyez, puis ce que vous vivez, là, c'est l'accomplissement de Joël, qui a dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles vont prophétiser, ils vont parler en groupe, même de façon inspirée. C'est-à-dire, j'aurai un groupe d'individus qui vont accomplir la mission et les membres de l'Église vont être des exemples dans ce sens-là et ils vont prophétiser, ils vont parler, ils seront capables de parler, inspirés par mon esprit. C'est fort, ça tient tout ça. Et il dit après ça, vos fils et vos filles, donc, prophétiseront. Et les disciples le faisaient déjà. Ils venaient des entendre parler en langue et ils venaient des entendre parler du mystère de Dieu. Ils commençaient à expliquer le plan de Dieu. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. Je vous donne juste un exemple qui est arrivé dans cette période-là, pas longtemps après. Acte 7, versets 55-56, vous pourrez aller voir. C'est le cas d'Étienne, avant qu'Étienne soit mis à mort. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, donc de la puissance de Dieu, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, une vision. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme, à la droite de Dieu. Étienne avait cette vision-là, ça avait été déjà annoncé dans Joël dans le passé, et là, l'apôtre Pierre rappelait ça aux gens. Et quand Étienne a eu cette vision-là, j'imagine que ça a été un renforcement de se rappeler ce que Pierre avait dit ce jour-là. Et vos vieillards auront des songes. Je vous donne un autre exemple. Il y en a un vieillard qui a eu plusieurs songes dès cette époque-là, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a eu des songes qu'il nous a transmis par écrit dans l'Apocalypse et qui aident à comprendre le reste de la Bible parce que ça définit le reste du film, le reste de l'histoire de l'humanité jusqu'au retour de Christ. 9, verset 17, il parle de la sixième trompette ici, des 200 millions, l'armée de 200 millions d'hommes qui viendra de l'Orient et qui va descendre vers Jérusalem au temps de la fin. Je cite, « Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. » Bien sûr, l'apôtre Jean a décrit dans ses mots ce qu'il a vu dans la vision. Mais il dit bien ici, c'est dans la vision qu'il a vu ces choses. Alors, quand l'apôtre Pierre a dit « Vos vieillards auront des songes », ces choses-là se sont réalisées et j'ai fortement l'impression que d'ici le temps de la fin, quand les temps vont devenir plus difficiles et que Dieu va se manifester davantage au milieu de son Église, ces phénomènes-là annoncés d'avance vont encore se réaliser pour l'instruction de l'Église et pour le témoignage aussi qui sera rendu au monde. Acte 2, versets 19 et 20. Ici, Pierre continue de citer le prophète Joël. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. » Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et certaines personnes m'ont déjà demandé qu'est-ce que ça voulait dire, ces passages-là. Verset 20, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. » Bon, on sait que ces choses-là vont se produire juste avant le retour de Christ. Parce que ce sont les signes célestes qu'on voit dans Apocalypse 6 et le verset 12. Apocalypse 6, verset 12, il est écrit, « Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. » Alors ça, c'est ce qui doit se produire à la fin. Mais vous savez que dans les prophéties, il y a souvent une dualité de réalisation des prophéties. C'est-à-dire que la même prophétie se réalise deux fois, à deux époques différentes. Et parfois plus, mais règle générale, c'est deux fois en ce qui concerne les prophéties qui ont dualité. Alors, quand Pierre parle ici qu'il y a des prodiges dans le ciel, qu'il y a des miracles sur la terre, qu'il y a du feu, du sang, que le soleil va se changer en ténèbres et la lune en sang, c'est que C'est une prophétie devant s'accomplir, bien sûr, comme je mentionne, juste avant le retour du Seigneur. Mais Pierre en parle parce que les gens qui étaient là venaient d'être témoins de ces prodiges-là. Ces mêmes prodiges-là, ils venaient d'en être témoins. C'était une première réalisation de cette prophétie-là. Ils venaient d'être témoins de ces choses-là, en fait, autour de la mort du Christ auparavant. Et ça, vous pouvez le vérifier vous-même. Rappelez-vous, vous regarderez dans votre Bible, le jour où le Christ est mort, qu'est-ce qui s'est passé? À partir de midi, aller à 3 heures l'après-midi, il y a eu des ténèbres complètes sur la terre. C'était noirceur comme la nuit. Réalisation de ça, de ce que Joël avait annoncé et de ce qui va encore se reproduire. Alors, il disait aux gens, vous venez d'être témoins des choses qui ont été annoncées par Joël. Vous savez ces choses-là. Et après ça, il continue. Alors, vous savez que quand Christ est mort, donc, il y a eu ces ténèbres-là, de midi à 3 heures. Ça a dû être terrifiant. Et le soir même, alors que le Christ a été mis au tombeau, 25 avril de l'année 31 de notre ère, soirée mémorable, c'est le soir de la soirée mémorable, qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? C'est qu'il y a eu une éclipse lunaire où la lune est devenue rouge comme du sang. Et on a les données historiques qu'on peut présenter là-dessus. Alors, ces signes-là venaient de se réaliser quelques jours auparavant, et Pierre leur dit, rappelez-vous ce que vous venez de voir. C'était déjà écrit, c'était annoncé longtemps d'avance. C'est fantastique. La parole de Dieu se tient. Dieu est puissant. Il n'y a rien qui arrive pour rien, et tout a une signification. Et c'est intéressant, vous savez que il y a deux éclipses totales de lune aussi qui se produisent en 2014 lors de deux jours saints précis. Et les deux mêmes jours saints en 2015, il y aura encore chaque fois éclipse de lune totale. Cette année, en 2014, à la soirée mémorable, comme lorsque c'est arrivé quand le Christ est mort. Cette année, soirée mémorable, le 15 avril, il y a eu pleine lune et il y a eu éclipse de lune. Et à l'automne qui vient, premier jour de la fête des tabernacles, 8 octobre prochain, il y aura aussi une éclipse totale. Maintenant, si on va en 2015, soirée mémorable, 4 avril 2015, éclipse de lune totale, comme en 2014, comme le soir où le Christ a été mis au tombeau. Et en 2015, encore le premier jour de la fête des tabernacles, comme en 2014, 28 septembre 2015, cette fois-là, il y aura encore éclipse totale de lune. Je donne aucune interprétation de ça non plus. On verra dans le futur. Il faut pas spéculer là-dessus, mais c'est quand même intéressant de voir ces choses-là arriver. Et on verra dans le futur s'il y a une signification particulière à dégager, mais c'est quand même frappant de voir que ça arrive exactement à ces dates-là, 2 années de suite, dans les temps où nous sommes rendus. Et que la première éclipse de ces 2 années-là correspond au soir où le Christ a été mis dans le tombeau, le 25 avril de l'an 31 de notre ère. Intéressant. Disons simplement à suivre. Et probablement que s'il y a des choses là-dedans qu'on doit savoir, l'Église nous informera en temps et lieu. Mais c'est intéressant. Revenons maintenant à ce que Pierre leur a dit par rapport aux prodiges qui s'étaient produits peu de temps auparavant, au moment de la mort de Christ. Acte 2, 19, 20. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang, une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Alors ça, on vient de voir que ça s'est produit au moment de la mort du Christ et Pierre leur rappelle. Autrement dit, il leur dit, vous avez vu ces choses-là, la lune qui s'est changée en ténèbres, vous avez vu les ténèbres couvrir la terre pendant 3 heures de temps. Vous venez de voir maintenant la puissance du Saint-Esprit à l'action parce que les serviteurs de Dieu vous parlent en diverses langues qu'ils ne connaissaient pas par la puissance de Dieu. Et plus que ça, il avait été témoin de pas mal plus que ça. Allez dans Matthieu 27. Matthieu 27, gardez votre place dans Actes, on va revenir. Matthieu, chapitre 27. C'est passé plein de choses, j'ai pas fait le résumé de tout, mais il y a une chose qui s'est passée au moment de la mort de Christ que ces gens-là ont vu et qui était de nature sûrement à les toucher lorsqu'ils ont entendu le sermon de Pierre pour dire « Vous avez été témoins de signes et de miracles qui n'ont pas été faits auparavant de cette façon-là. » Alors, Matthieu 27, versets 51 à 53. Au moment où le Christ est décédé, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, tremblement de terre. Et les rochers se fendirent. Donc, ça a dû être un énorme tremblement de terre. Pour que les rochers se fendent, ce n'est pas un tremblement de terre ordinaire. Mais c'est le prélude aussi au tremblement de terre, au grand tremblement de terre dont la Bible parle et qui doit arriver au moment du retour de Christ. Alors, les rochers se fendirent. Et regardez verset 52, ce qui s'est produit. Ce que les gens n'avaient jamais vu auparavant avec cette ampleur. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Bien sûr, Lazare avait été ressuscité avant ça par le Christ, revenant à une vie mortelle, mais c'était un individu. Et dans l'Ancien Testament, c'était arrivé que une ou deux personnes avaient été ramenées à la vie, entre autres par Élie. Mais maintenant, ici, au moment de la mort de Christ, vous avez un grand groupe de chrétiens qui étaient morts, qui reviennent à la vie. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça, ça n'a pas passé inaperçu, là. Ça n'a pas passé inaperçu, au contraire. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, ça vous donne le contexte. Quand Pierre a fait son fameux discours, puis qu'il leur a rappelé ces choses-là, comprenez-vous que ça a dû ébranler les gens, pas à peu près, parce que ça, c'était des choses indéniables. Et tout de suite après, Pierre leur dit, là, « Repentez-vous, changez. Le même Dieu qui a fait arriver ces choses-là vous informe que vous devez changer, que vous devez abandonner vos voies mauvaises, que vous devez être baptisé pour recevoir le pardon de vos péchés. Et là, vous allez, à votre tour, recevoir la puissance de transformation du Saint-Esprit. Et vous allez pouvoir mener une vie nouvelle. Et ça va être le début d'une vie entière changée. Et c'est la même chose pour nous. La transformation, elle a commencé à partir du moment où Dieu a décidé de nous appeler, parce que ce n'est pas nous qui avons décidé de venir à l'Église, c'est lui qui nous a attirés au Christ, comme la Bible mentionne. Mais la transformation a commencé là, quand nous avons répondu favorablement à l'invitation de Dieu, quand il nous a incités par son Esprit à vérifier dans sa parole. Quand on a commencé à voir, par exemple, que le jour que lui avait déterminé pour célébrer son jour, c'était le samedi et non pas le dimanche ou un autre jour, et qu'on a commencé à célébrer ce jour-là pour honorer notre Créateur, plus on a fait ces choses-là, plus on a compris. Pourquoi? Parce que sa puissance agissait de plus en plus en nous. Et la puissance de transformation avait commencé. Et on s'est consacré à Dieu. On a réalisé qu'on avait été racheté à un si grand prix. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 2. Et là, on a réalisé, comme les gens qui ont entendu le message de Pierre et qui ont dit qu'est-ce qu'il faut faire, il leur a dit « Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit et vous allez commencer une vie nouvelle. » Et regardez ici au verset 2, Romains 12, ça s'appliquait à eux et ça s'applique à nous. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » On se conformait au siècle présent avant. Et on prenait même plaisir, malheureusement, à se conformer au siècle présent. Mais maintenant, il dit « Vous avez été appelés à vivre autrement. » Selon les lois de Dieu, ce que vous ne considériez pas avant. Ou même si vous étiez soi-disant chrétien, vous pensiez honorer Dieu en observant des fausses fêtes, des fêtes du monde et non pas les fêtes bibliques. Vous observiez un jour qui n'est pas le jour décrété par Dieu. Malheureusement, vous ne connaissiez pas le vrai Dieu à ce moment-là, comme moi d'ailleurs. Mais Dieu s'est révélé à nous et comme il s'est révélé à eux à ce moment-là, il a dit, vous avez une autre vie à vivre pour entrer dans le monde à venir, pour faire partie de ma famille. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est notre rôle à jouer. Mais soyez transformés. Puissance de transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on ne peut discerner ça que par la puissance de Dieu. Et on ne peut vivre conformément aux lois de Dieu que par la puissance de Dieu. C'est formidable. Il nous offre toute l'aide dont nous avons besoin. C'est la Pentecôte. C'est l'Esprit qui est donné. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 1, Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, vos vies, vos façons de vivre, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et si on fait ça au cours de notre vie, on est des sacrifices vivants. On n'a pas besoin de passer par des épreuves de dernier recours, comme la grande détresse, par exemple, pour montrer à Dieu qu'on veut lui appartenir. Si on le fait de bon cœur, en demandant l'aide de Dieu, il dit, vous serez des sacrifices vivants. Alors, cette Pentecôte-là, que les apôtres ont vécu, puis que les gens de Jérusalem ont vécu, elle a été très spéciale. Il faut dire que la première l'avait été aussi, quand le Christ est descendu sur le mont Sinaï pour donner ses lois, et que la montagne était toute tremblante et fumante et tout ça, il y a eu des signes extraordinaires à ce moment-là. Mais lorsque la première Pentecôte du Nouveau Testament a été célébrée, puis ça a scellé la fondation d'Église, il y a eu encore des signes extraordinaires qui ont été vécus. Acte 2. Acte 2 et le verset 33, ça nous guide un peu plus dans la réflexion qu'on fait aujourd'hui. Il parle du Christ ici, qui a donné sa vie, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père, élevé par la droite de Dieu parce qu'il est retourné au ciel et il est à la droite de Dieu. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, cette puissance-là, et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Alors, voyez-vous, il dit, le Christ est retourné au ciel, et comme il avait promis, le Saint-Esprit a été donné. Dieu lui a donné le Saint-Esprit que lui a répandu. Remarquez bien, si le Saint-Esprit était une troisième personne d'une quelconque trinité, ce qui est faux, ce qui n'est pas biblique, c'est qu'on ne peut pas répandre une personne sur d'autres personnes. Mais par contre, Dieu peut répandre son esprit, parce que c'est une puissance, sur ceux qui l'appellent et qui veulent faire sa volonté. Il parle du Christ, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis, on l'a vu tantôt, et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Pourquoi il dit comme vous l'entendez? Écoutez, ces hommes-là, qui étaient sans doute peut-être unilingue, bilingue au maximum, parlaient d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Il dit, vous les entendez maintenant et vous voyez le miracle de transformation de l'Esprit sous vos yeux. Ce discours-là de Pierre, c'était pas peu de choses, là. Mettez-vous dans le contexte de ces gens-là qui avaient vu toutes ces choses-là et qui se faisaient parler aussi directement que ça. Et c'est le début, ça a été ça pour eux autres, et c'est ça pour nous quand Dieu nous appelle, puis qu'on se met en marche pour vivre selon ses lois. Ça a été le début, et c'est pour nous le début d'un grand miracle, de voir notre nature humaine charnelle changer, transformée en nature divine. Il faut qu'elle soit transformée jusqu'à être transformée totalement. Ça se fait progressivement. Et au moment du retour de Christ, si on est fidèle, il nous transformera totalement pour qu'on devienne des êtres entièrement composés d'esprit. Et à ce moment-là, on participera à ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. On naîtra dans la famille de Dieu en tant qu'être spirituel. Bien sûr, on pourra reprendre une forme physique pour revenir servir les gens qui seront encore vivants sur la terre et venir enseigner, comme la Bible nous le montre. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples frappants de miracles de transformation par le Saint-Esprit. Des miracles de Dieu dans des êtres humains, dans les faibles êtres humains. On est tous faibles au point de départ. Et sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas plaire à Dieu. D'ailleurs, c'est bien marqué, je pense que c'est dans Romains, que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on est ennemi de Dieu. Quand on ne connaît pas Dieu, on est ennemi de Dieu. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le saisir. Et ça doit apparaître dans nos vies, quand on a le Saint-Esprit. Et ça doit apparaître de plus en plus. Il ne faut pas se décourager si on n'est pas 100% esprit, mais il faut continuer à développer le caractère de Dieu. Parce qu'on doit être, et ça va graduellement, on doit être de plus en plus converti. Converti veut dire changer. Donc, on doit changer de plus en plus. On doit de mieux en mieux aimer Dieu, de mieux en mieux aimer les autres, être plus attentif aux besoins des autres, puis être plus entièrement consacré à soutenir son œuvre pour accomplir la mission qu'il nous a donnée à ce moment-là. Alors, on doit être de plus en plus converti, changé, donc transformé par la puissance de Dieu. Et en même temps, c'est qu'on devient de plus en plus rempli de foi aussi. Plus on fait d'expérience, avez-vous remarqué? Plus on fait d'expérience avec Dieu, plus on le voit intervenir, même dans les petites choses, plus ça nous fortifie, plus la foi devient solide, plus Dieu devient réel. Et plus ça nous prépare aux choses plus difficiles qui viennent pour être solides sur nos deux pieds à ce moment-là. Et je vous donne seulement un seul signe de ça. On peut s'examiner chacun sur ce signe-là puis voir si on est en route ou pas. Est-ce que je suis prêt à être corrigé? Est-ce que je suis prêt à être corrigé? Écoutez, c'est la base du changement. Quand il dit « changez, repentez-vous » et tout ça, il faut être prêt à être corrigé. Il faut se faire dire ce qu'on faisait de contraire aux lois de Dieu. faut se faire corriger par la Bible qui nous dit de vivre autrement maintenant. Est-ce que je suis disposé à être corrigé? Ça change tout. Parce que si je ne suis pas disposé à être corrigé, donc je ne suis pas disposé à être converti ou à changer ou à être transformé. Il faut être prêt à ça. Et c'est une bénédiction. Même la Bible dit que si un ami vient nous dire qu'on est en train de se tromper puis qu'on peut perdre notre salut parce qu'on a pris une fausse route, c'est une bénédiction. Il faut considérer cet homme-là ou cette femme-là comme un vrai ami ou une vraie amie. Il ne veut pas nous laisser nous perdre. Alors, si on le reçoit mal parce qu'il nous indique qu'on a quelque chose à changer, comprenez-vous qu'on n'est pas disposé à être transformé ou à changer. Proverbe 10, verset 17 dit ceci. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Proverbe 10, verset 17. Mais celui qui refuse la réprimande s'égare. Il perd le but. Il perd son chemin. Et c'est intéressant parce que quand on regarde la biographie de M. Armstrong, M. Armstrong avait le courage de demander à Dieu qu'il le corrige. Si vous voyez sa biographie, vous allez voir qu'il en parle dans ce sens-là. Et c'est la même chose de M. Meredith. M. Meredith demande à Dieu de le corriger. On peut le faire. M. Ames en parle de temps en temps. Il dit, quand je demande à Dieu là, de me corriger, il dit, je demande en même temps d'être doux, de ne pas aller trop vite. Je comprends. On peut demander ça à Dieu. Mais je suis certain que ça le réjouit et ça l'honore quand un de ses enfants, un de ses fils ou une de ses filles demande « Montre-moi ce que j'ai encore à changer. » Ça, ça plaît à Dieu. Parce que lui, il veut nous emmener à terme. Là. Il ne veut pas qu'on ait à souffrir inutilement. Il est prêt à nous aider pour qu'on arrive au but de bonne façon. Premier exemple, je vous ai dit qu'il y avait des exemples de transformation par le Saint-Esprit qui sont vraiment encourageants. Vous avez connu un certain monsieur du nom de Saul. Saul le pharisien, un des chefs religieux de son époque, puis pas le dernier parce qu'il connaissait sa religion puis il était zélé, pas à peu près. Saul, je le définis rapidement, ça va vous rappeler des choses, je vous apprends rien, mais je veux juste faire le contraste par la transformation d'esprit. Saul le meurtrier. Saul le meurtrier. Saul le destructeur de l'Église. Saul totalement charnel. Saul ennemi de Dieu, n'ayant absolument pas le Saint-Esprit de Dieu, mais un esprit charnel, avec sa religion humaine, basée sur la religion de l'époque. Persécuteur sans pitié des vrais chrétiens. C'est pour ça qu'on voit dans Acte 8, verset 3, c'est écrit, « Saul, de son côté, ravageait l'Église. » Ravager, ça veut dire beaucoup, cela. Il faisait pas juste déranger. Quand on crée des ravages, c'est des ravages, c'est fort. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et ce même homme-là a subi une transformation totale. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit, encore là. C'est pour ça que j'ai intitulé mon sermon « Puissance de transformation ». C'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est la Pentecôte qu'on célèbre aujourd'hui avec reconnaissance envers Dieu. Et Paul reconnaît qu'il était charnel, mais qu'il a changé. Bien sûr, il a fallu qu'il accepte de changer. Il y a eu des efforts à faire et il y a eu des épreuves à passer. Alors, allez dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. On voit comment Paul se définit. Verset 13. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Verset 14. « Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Et les religions sont dans l'ensemble des traditions d'hommes et non pas religion de Dieu. La religion de Dieu, elle est basée non sur des traditions d'hommes, mais sur la parole de Dieu. C'est logique, c'est normal. Et regardez le verset 21. Il parle maintenant du moment où il a été changé, comment les choses n'étaient plus les mêmes. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Jésus-Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois persécutait, nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait de détruire. » C'est fort. Ce qu'il essayait de détruire, maintenant, il le défend et il l'annonce. Verset 24, « Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. » Alors, on parle du même homme, là. Mais en même temps, c'est plus du tout le même homme. D'ailleurs, c'est plus Saul, c'est l'apôtre Paul. et il est complètement transformé par la puissance de l'Esprit. On a vu rapidement aussi tantôt Pierre, celui qui a fait ce fameux discours après que le Saint-Esprit a été donné à l'ensemble des apôtres et des disciples qui étaient réunis le jour de la Pentecôte. Avant ça, Pierre était craintif. Il a été même déloyal envers le Christ. Vous savez, il l'a renié 3 fois. Mais comme on a vu, après qu'il a eu reçu le Saint-Esprit, il a été transformé. Et ça a été très rapide. C'était spécial, les circonstances à ce moment-là, bien sûr. Il y avait une foi et un courage devenus inébranlables, là, parce qu'il a affronté la musique, comme on dirait à ce moment-là. Il a été très affirmatif. Acte 2, revenez dans Acte, on va voir comment il leur a parlé. Acte 2, versets 22 et 23. Après leur avoir dit, écoutez, vous venez d'être témoin des signes que Joël avait annoncés, vous venez d'entendre les serviteurs de Dieu parler, inspirés par l'Esprit, parler en d'autres langues, même et ainsi de suite. Là, regardez ce qu'il leur dit, versets 22 et 23. « Hommes, Israélites, les mêmes gens qu'ils craignaient avant. Hommes, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, autrement dit, il leur dit, oui, vous avez fait ça, mais ça avait été planifié que ça allait se passer comme ça, par le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il fallait que le Christ meure pour payer l'amende de vos péchés. Vous l'avez crucifié. Il va pas avec le dos de la cuillère, là. C'est vous qui l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Verset 36. Juste un peu plus loin, il revient avec la même chose. Il n'a pas peur. Il est affirmatif. Que toute la maison d'Israël sache, donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il revient encore là-dessus, puis il insiste là-dessus. Et là, après, les apôtres se mettent à annoncer l'Évangile. Ils sont littéralement en feu. Ils ont une mission à accomplir et ils sont partis. Et ils commencent à accomplir la mission de façon foudroyante. Mais tout de suite, ils ont des problèmes parce que les chefs religieux ne sont pas tellement contents. Ils se font mettre en prison, ils se font arrêter, certains se font battre. Et là, après avoir été libérés de la prison une fois par un ange, ils continuent à prêcher. Les chefs religieux avaient dit, arrêtez de parler au nom de Jésus-Christ, puis arrêtez de prêcher vos affaires. Ils les font mettre en prison. Un ange libère Pierre durant la nuit. Et qu'est-ce que Pierre fait? Il a peur, il va se cacher. Regardez, acte 5, versets 28 à 32. Acte 5, versets 28 à 32. Là, il est encore devant les chefs religieux. Nous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là? Les chefs religieux lui disent ça. On vous avait déjà dit de pas faire ça. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Donc, ils n'étaient pas allés à demi. Ils ont fait le tour de Jérusalem. Là, donc, ce qu'ils annonçaient, ça avait un impact, là, tellement que ça dérangeait toute la hiérarchie religieuse qui ne croyait pas au Christ et qui se sentait menacée dans leur position. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Puis en plus, vous dites, c'est nous autres qui est coupable de ça. Ils se défendaient bec et ongles, même pour dire, non, c'est pas nous qui est coupable de ça. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, Pierre n'est pas allé se cacher, ni les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À Dieu plutôt qu'aux hommes. Et nous, c'est la même chose aujourd'hui, et ça va être la même chose jusqu'au retour de Christ. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. C'est à passer, il le répète. Vous l'avez tué. En le pendant au bois, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est arrivé justement pour votre bien, même si vous ne le comprenez pas pour l'instant. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissaient. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Acte 4, juste un peu avant. Ça, c'est après avoir été relâché de prison. À un autre moment donné, il avait été relâché de prison. Et regardez la prière confiante qui est adressée à ce moment-là. Acte 4, versets 29 à 31. Après avoir été relâché, Pierre retourne voir les autres et ils prient ensemble. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, la mission, avec une pleine assurance, en ayant courage et foi, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, par la puissance de Dieu et au nom du Christ, comme tout doit se faire. Alors, ils ont demandé, donne-nous la force pour qu'on continue à faire ce qu'on a à faire, mais donne-nous des miracles encore et des prodiges pour sceller l'autorité que tu nous donnes, pour nous montrer au monde que ça vient de toi, que ce n'est pas du tout par notre force. Et regardez après, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, malgré les menaces qu'il y avait autour. Je vous parle de la transformation par la puissance de Dieu. Et tout ça, ça s'est passé dans une période de temps pas tellement longue, là. Et ces hommes-là qui étaient craintifs avant, qui étaient en retrait, qui, voilà qu'ils vont de l'avant, qui remplissent Jérusalem de la nouvelle doctrine, comme ils l'appelaient. Et ils vont de l'avant avec force. Acte 5, juste la page suivante. Et Dieu a ajouté des signes. Voyez-vous, dans la prière ici, il venait de demander, donne-nous des signes que les gens voient que nous sommes tes serviteurs. Et nous, on doit demander la même chose parce qu'au temps de la fin, ça va encore se reproduire. Et on aura besoin d'avoir des signes pour que Dieu montre à l'ensemble de l'humanité, pas pour les convertir, mais pour servir de témoignage. Où sont ses vrais serviteurs? Et à partir de là, quel est son vrai message? Parce que ses serviteurs fidèles annoncent fidèlement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout simplement. Ça va ensemble. Mais regardez ce qui a été donné à Pierre de pouvoir faire après. Acte 5, on va commencer au verset 12. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Pas longtemps après qu'ils ont fait cette prière-là, après avoir été relâchés. Ils ont dit à Dieu, « Donne-nous ta puissance pour qu'on puisse faire des choses miraculeuses, que les gens voient que nous sommes tes serviteurs et que leur attention soit attirée sur le message. » C'est ça le but. Alors, tout de suite après, ça s'est produit. Et ils, les apôtres, se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les gens étaient frappés de ça. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est fort, là. Représentez-vous le contexte de l'époque, là. Dieu mettait son sceau pour dire, voici, c'est le début de l'assemblée d'Israël spirituelle, l'Église du Nouveau Testament. Et il donnait des signes incroyables, inouïs de ça. Et à tel point, cette puissance de transformation-là a fait en sorte qu'un homme de simple nature humaine, c'était pas par sa force, mais par la puissance de Dieu en lui, pouvait accomplir ces prodiges-là à la gloire de Dieu. Imaginez-vous la scène, là, les rues. Dans les rues, là, on amenait les lits, on cordait les gens, les uns à côté des autres. C'était pas juste un ou deux, là. Ils amenaient des villes voisines. J'imagine que tous les malades, on les amenait, on les cordait sur des lits. Ceux qui étaient sur des lits pouvaient pas être debout. Et l'apôtre Pierre passait, et quand son ombre couvrait certaines personnes, elles étaient automatiquement guéries, ou si ces personnes-là étaient sous l'influence ou possédées par un démon, le démon partait. Puissance de transformation de Dieu. Manifestation du signe extraordinaire de la fête de la Pentecôte que nous vivons aujourd'hui. Un troisième exemple, rapidement, vous avez l'exemple d'Étienne. Il venait à peine d'être ordonné. Acte 6. Il venait à peine d'être ordonné et il a fait un discours puissant et il a été lapidé après, vous savez. Alors, acte 6 et le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ça fait partie de la réponse aux prières qui avaient été adressées à Dieu pas longtemps avant. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne purent résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et quand ils n'ont pas pu résister à sa sagesse, ils ont menti, ils ont lancé des fausses accusations et ils l'ont amené devant la cour de l'époque. Et c'est là que les autres choses sont arrivées. Et regardez après ça. Le verset, acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Là, Étienne leur a raconté l'histoire d'Israël. Et en faisant ça, son visage a changé. Je vous donne le verset 15 du chapitre 6. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Et là, ensuite, Étienne leur raconte l'histoire d'Israël et leur dit, lui aussi, leur culpabilité, exactement comme l'apôtre Pierre avait fait. Et là, j'arrive à Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Et regardez ce que Étienne leur dit avec courage. Il vient d'être ordonné pas longtemps avant. « Hommes aux courroies, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » La Bible dit, quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, malgré nous, on est ennemi de Dieu. On ne sait pas, on ne sait pas mieux. « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, Jésus, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements, parce que leurs ancêtres avaient reçu les 10 commandements au mont Sinaï lors de la première Pentecôte, vous avez reçu la loi d'après les commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. Ils ont ajouté plein de choses à la place de garder la lettre et l'esprit de la loi. Et là, ils ont lapidé Étienne, vous savez. Et regardez le verset 59, qu'est-ce qui s'est passé? Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Comprenez-vous que ce n'est pas par des forces humaines qu'une personne peut faire ça, qu'une personne peut être en train de mourir sous les pierres et de demander à Dieu de pardonner à ses meurtriers. Ça prend une foi inébranlable et une miséricorde inébranlable. Il venait d'avoir un exemple pas longtemps avant, le Christ lui-même, qui avait dit la même chose. « Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Étienne connaissait le Christ et Étienne avait l'Esprit de Christ en lui. Il avait le Christ en lui. Il pouvait dire la même chose sous la même inspiration de son Seigneur. C'est fort. Vous avez l'exemple de Jacques aussi, le frère de Jésus. Un exemple de transformation extraordinaire parce que, pas besoin de vous y reporter, mais je vais y aller. Jacques ne croyait pas au Christ au début. Ses frères ne croyaient pas en Jésus-Christ, vous savez. Jean chapitre 7. Et je vais vous lire à partir du verset 2. Jacques était même cynique avec ses frères par rapport au Christ. Regardez la façon dont les choses sont dites. Jean 7, verset 2 à 5. « Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, ça c'est les frères du Christ, « Pars d'ici et va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et regardez ce que ses frères lui disent. Ils ne croyaient pas à ses miracles. Pourtant, ils avaient vu les miracles. Mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils ne comprenaient pas. Ils ne faisaient pas le lien. Pas du tout. Ils ont dit, « Ah, tu fais des choses, là. Va les faire face à tes disciples, là, pour les encourager. Nous autres, ça ne nous change rien, ça ne nous dit rien. Mais vas-y à la fête, là. Ne retarde pas. » Voyez-vous, il y a un cynisme là-dedans, il y a une espèce de mépris. Mais pas longtemps après, le même apôtre Jacques, qui était dans la salle de la Pentecôte, qui a reçu la puissance de transformation, il est devenu apôtre, il a cru en son frère, il l'a imité, il est devenu même, après ça, pasteur de Jérusalem. Et quand vous regardez l'historien Eusebius dans « Ecclesiastical History », d'autres historiens mentionnent la même chose aussi, c'est que les Juifs, à un moment donné, s'en sont pris directement à Jacques, qui était pasteur de l'Église à Jérusalem. Et ont voulu que Jacques abdique ses croyances. Ils l'ont amené sur le haut du temple et ils lui ont dit, « Si tu n'abdictes pas, nous te poussons en bas. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui a dit, « Non, je ne changerai pas. » Ils l'ont jeté en bas. Il n'était pas mort. On voit ça par les historiens qui racontent ces choses-là, en particulier celui dont je vous ai mentionné. On trouve le récit dans Barclay, aussi dans William Barclay. comme ils n'étaient pas morts en bas, ils se sont précipités sur lui, ils ont encore demandé d'abdiquer, et comme il a refusé, ils l'ont lapidé, ils l'ont achevé à coups de pierre. Et Jacques a dit une chose, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » L'esprit de son frère était en lui. L'exemple, il l'avait vu de son frère, et maintenant, il n'était plus du tout cynique. Il n'était plus du tout méfiant par rapport à son frère. Au contraire, il avait une foi inébranlable maintenant. Il avait un courage qu'il n'avait pas avant. C'est incroyable. Quand on voit ça, c'est formidable. Et ça nous encourage tellement. Parce que c'est le même esprit que Dieu vous donne et que Dieu me donne. C'est le même esprit, la même force, la même puissance. Nous devons devenir de plus en plus des miracles de transformation divine à tous égards dans notre vie. Refléter le caractère de Christ. Agir comme lui. Avoir sa douceur, sa fermeté lorsque c'est le temps, avoir cet esprit de service. Et nous, on n'est pas encore parfait, mais on s'en va vers une transformation totale. Et quand cette transformation totale-là sera effectuée, au moment où le Christ va revenir, nous allons entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la famille royale régnante, pour servir le reste de l'humanité. Et c'est le cas pour tous les baptisés. Romains 8. Je vais vous montrer une définition de ce qu'est un vrai chrétien. Et c'est solide et ce n'est pas discutable. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. On a vu tantôt dans Romains 12, versets 1 et 2, ne vivez plus selon la chair, mais vivez selon l'esprit. Et ici, Paul dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ça prend l'esprit de Dieu pour être capable de faire ça. C'est ça qu'il dit. Et regardez ce qu'il dit après. Là, il donne la définition de ce qu'est, bibliquement parlant, un vrai chrétien. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, pour être chrétien, il faut avoir l'Esprit de Christ. Et la seule façon pour recevoir l'Esprit de Christ, c'est comme Pierre l'a annoncé, de regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu, c'est-à-dire se repentir, et demander d'être passé par les eaux du baptême, par un ministre de Dieu, pour être lavé, purifié de toutes nos fautes passées, et après, recevoir l'imposition des mains par un ministre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, est placée dans la personne. Formidable. Alors ici, vous avez la définition d'un vrai chrétien, celui qui a l'Esprit de Christ en lui. Et ça nous aide à accomplir notre rôle maintenant. Sans ça, on n'est pas capable. Et regardez, il y a un rôle futur de cet Esprit-là en nous. Regardez le verset 11 du même chapitre. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Le Saint-Esprit, on le sait par la Bible, c'est un dépôt de la vie éternelle. Et si on est fidèle jusqu'au bout, c'est grâce à ce dépôt-là en nous qui va nous transformer en être spirituel, c'est-à-dire qu'il va nous donner totalement de son Saint-Esprit. Et dans ce sens-là, dans notre démarche-là, pour devenir de plus en plus comme le Christ, c'est qu'on devient de plus en plus la parole vivante de Dieu. Quand il dit « Soyez des sacrifices vivants », on devient la parole vivante, en action, parole vivante de Dieu. Et on devient à l'image de celui qui habite en nous par son Saint-Esprit. Et on pourra, à ce moment-là, devenir ses enfants, comme on voit au verset 29 de Romains 8, le même chapitre où on est, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Il y a seulement un qui est né dans la famille de Dieu maintenant, celui qui était Dieu auparavant avec le gouverneur de l'univers et qui s'est fait homme et qui a été ressuscité ensuite et qui est né en tant que premier-né dans la famille divine. On a un grand encouragement en tant que baptisé parce qu'on peut compter sur l'Esprit de Dieu en nous. Et vous savez, si vous arrêtez à y penser, la puissance de Dieu, son Saint-Esprit, c'est la même puissance par laquelle le Christ a créé l'univers physique. Au complet. Parce que ça n'existait pas. Mais c'est par sa puissance qu'il l'a créé. Et comme on voit dans Hébreu, vous pourrez aller voir vous-même, Hébreu 1, versets 1 à 3, c'est par cette même puissance-là, son Saint-Esprit, qu'il maintient en existence l'ensemble de l'univers. Et bien sûr, nos propres vies sur le plan physique et notre démarche spirituelle. Juste pour vous donner un exemple de la puissance de Dieu puis de ce qui se passe dans l'univers. Puis, en même temps, ça nous fait réaliser que tout est en transformation, même dans l'univers physique. Vous savez, M. Ames, c'est un ingénieur et il aime les chiffres, il aime calculer les choses puis voir ce que ça veut dire et tout ça. Les ingénieurs dans l'Église ont cette même heureuse tendance-là parce qu'ils nous en font profiter. Alors, M. Ames a fait des recherches concernant les galaxies. Vous savez qu'on dit que c'est en mouvement dans l'univers. Les galaxies se déplacent. Les scientifiques vont vous le dire aussi, mais ils ont calculé à quelle vitesse les galaxies, je ne parle pas d'une planète, là. Une galaxie, c'est un ensemble de planètes, de plusieurs soleils avec plusieurs systèmes et ainsi de suite. C'est énorme. Alors, les galaxies s'éloignent les unes des autres, M. Ames l'a mentionné dans un de ses sermons, à la vitesse de 160 millions de kilomètres à l'heure. 160 millions de kilomètres à l'heure. C'est vite. C'est vite. Il y a raison d'avoir un billet de circulation avec une amende très élevée si ça s'appliquait pour le code de la route. Mais c'est incroyable. Alors, l'univers, et d'ailleurs, quand vous regardez dans Ésaïe, quand il parle du Christ qui est le chef admirable, l'enfant qui nous est né, tout ça, il dit le Christ va donner un accroissement sans fin au royaume de Dieu et ainsi de suite. Et sous-entendu là-dedans, il y a sans doute la possibilité d'expandre l'univers à l'infini pour ainsi dire. Dieu n'a pas de limite. Mais c'est déjà tellement frappant quand on voit que c'est déjà en mouvement, c'est déjà pour ainsi dire en transformation d'une certaine façon. Et c'est formidable, c'est tellement encourageant. Quand on dit qu'on sert un Dieu qui est grand, il est beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Dieu habite l'éternité, Dieu il est hors du temps. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui commencent à réaliser ça, même des hommes de science. Il y a le physicien réputé Stephen Hawking qui est arrivé à cette conclusion-là d'ailleurs. Et je cite ses paroles ici. Il dit « Avant que la matière existe, il n'y avait pas de temps. » Intéressant. Bien sûr, c'est dans son optique limitée d'être humain, mais c'est la vérité. Parce que le temps a été créé par Dieu en même temps que l'espace. Ça prend tant de temps pour aller du point A au point B. C'est dans l'espace, c'est dans l'univers physique. Alors, avant que l'univers physique ou que la matière existe, il n'y avait pas de temps. Il est arrivé à cette conclusion-là qui est réelle. Alors écoutez, c'est cette même puissance-là de la création qui est en vous. Et Dieu est en train de créer en vous, qui êtes fidèles, qui marchez selon Dieu, qui passez à travers les épreuves, qui manquez votre coup comme moi, de temps en temps, qui demandez à Dieu pardon aussitôt, puis qu'on recommence, qu'on jeûne pour avoir la force de ne plus répéter nos fautes, pour développer son caractère. C'est la même puissance qui soutient l'univers qui est en vous. La même puissance par laquelle il l'a amené à l'existence. C'est extraordinaire. Et c'est aussi, cette puissance-là, la puissance de la résurrection. On l'a vu tantôt. Et c'est par cette puissance-là que Dieu nous donne de comprendre son plan, de comprendre que ses fêtes représentent les étapes du plan, et ainsi de suite, et de savoir qu'on peut toujours compter sur lui. Alors, à la première Pentecôte, les 10 commandements ont été donnés aux Israélites au mont Sinaï. Mais vous vous rappelez, ces commandements-là, ils étaient externes aux Israélites. Ils ont été écrits sur des tables de pierre par le doigt de Dieu, comme on voit, mais c'était en dehors de eux. Dieu leur a donné ces commandements-là et il a donné la directive à Moïse de mettre les deux tables de la loi dans l'arche d'alliance. Mais à partir de la Pentecôte, de l'an 31 de notre ère, Dieu a commencé à ce moment-là à écrire ses lois par son Saint-Esprit dans les êtres humains, en nous, pour qu'on soit disposé à changer, pour qu'on ait le désir même de changer. D'ailleurs, on demande à Dieu, « Donne-moi de vouloir, puis donne-moi de pouvoir, pour qu'on ait le désir, l'intention profonde de pratiquer ces lois, pour avoir la foi, pour avoir le courage. » Mais ça vient par son Esprit. C'est pour ça qu'à chaque jour, il faut demander à Dieu de nous donner de son Esprit, de sa puissance. Et ce sera la même chose après le retour de Christ. Dieu va répandre son esprit à ce moment-là sur les nations israélites et sur le reste de l'humanité qui seront appelés à ce moment-là. Ils auront leur chance de connaître Dieu. Ils auront leur chance, comme vous et moi aujourd'hui. Mais eux autres, écoutez, ça va être dans des circonstances beaucoup plus faciles que pour nous. Parce que nous, on nage, pour ainsi dire, à contre-courant. Parce que l'ensemble de la société ne croit pas en Dieu ou croient à des faux dieux, observent des fêtes qui ne sont pas les fêtes de Dieu et n'ont pas beaucoup d'égard envers l'ensemble de ces lois, sinon de façon assez superficielle. Mais nous devons vivre, nous, selon les lois de Dieu. Respecter notre parole donnée, servir les autres, avoir miséricorde, avoir notre cœur dans l'œuvre pour terminer le travail, pour que le Christ revienne, pour que l'ensemble de l'humanité soit libérée. Ça, c'est notre travail. Mais on est à contre-courant dans ce sens-là. Et les gens ne peuvent pas comprendre. Et on ne peut pas leur reprocher non plus de ne pas comprendre. Comme David, on doit le demander à Dieu, crée en nous un cœur pur. Mets en nous un esprit bien disposé. Et ça, on doit revenir régulièrement avec ça. Mais je reviens avec ça en terminant. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Et c'est la plus belle partie de l'histoire de l'humanité qui s'en vient. Et nous, on en fait déjà partie. Parce qu'on est déjà en formation pour former le prochain gouvernement qui va administrer l'ensemble de la Terre. Nous faisons partie de cette histoire-là. Nous écrivons une histoire. C'est extraordinaire. Nous sommes les pionniers d'une merveilleuse civilisation nouvelle qui approche. Au point de départ, nous sommes extrêmement faibles, nous sommes incapables de faire des choses de nature spirituelle qui plaisent à Dieu. Mais avec son esprit, on peut y arriver. Et on sait, bien sûr, en tant qu'être humain, il nous arrive d'avoir des creux de vague. Il nous arrive d'avoir des reculs. Il nous arrive d'avoir des doutes. Il nous arrive d'être fatigué ou d'être soucieux ou d'être inquiet. C'est humain. Ce sont des émotions humaines. Mais il faut savoir qu'on peut compter sur Dieu, qui répond à ceux qui lui demandent et qui ont besoin de son secours. Regardez Ésaïe 40 en terminant. Ésaïe 40, un passage que je trouve tellement, tellement encourageant. Ésaïe, le chapitre 40. Et nous allons lire à partir du verset 29. Ça s'adresse à vous, ça s'adresse à moi. Et c'est la puissance d'encouragement et de transformation que Dieu met à notre disposition. Nous, les êtres humains, qui avons des moments de ralentissement, des moments de découragement passager, des moments de faiblesse, des moments de doute, des moments d'incertitude. Dieu dit, voici, je vais m'occuper de vous. Regardez verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il nous arrive d'être fatigué. L'usure et le temps jouent à notre contraire parfois. Mais regardez, c'est une promesse. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Mais il faut lui demander. Elle est en train de pratiquer ses lois. Et si on est en train de pratiquer ses lois, parce qu'il donne son esprit à ceux qui lui obéissent, il va nous en donner davantage. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ça qu'on a besoin. Mais leur force à eux, elle est renouvelée par la force du Saint-Esprit, parce que notre force, elle est incapable, comme Pierre, avant d'être transformé. Exactement ça. Leur force, elle est animée par la force du Saint-Esprit. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parce qu'on s'en va vers la libération de l'humanité. On est encouragé par ça et on sait que Dieu va nous aider. Et en terminant, le dernier verset que je vous donne, qui me réjouit beaucoup chaque fois que je le lis, c'est un encouragement, c'est une promesse, et ça va exactement avec la fête de la Pentecôte qu'on célèbre aujourd'hui. Philippiens 1, verset 6. Paul dit ceci, Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et je précise cette œuvre de transformation, si nous sommes fidèles, bien sûr, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »